Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Sur France Bleu, Marine Logénie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ma France, votre magazine d'actualité. Avec un sursaut d'autorité demandé par Gabriel Attal à Viry-Châtillon, le Premier ministre est ce midi dans l'Essonne, dans cette ville endeuillée par la mort de Chemseddine, 15 ans, lynché devant son collège il y a 15 jours. Gabriel Attal lance une grande concertation pour lutter contre la violence des mineurs et se donne 8 semaines pour trouver des solutions. On y revient tout de suite. On se souvient toutes et tous du jour où Notre-Dame a brûlé, ce qu'on faisait, ce qu'on regardait, ce qu'on a ressenti le 15 avril 2019. 5 ans après, on fait le point sur le chantier avec nos invités et on attend vos appels, vos témoignages au 0810 055 056.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
Samara, 13 ans, rouée de coups devant son collège à Montpellier. Chemseddine, 15 ans, lynchée à mort à la sortie de son établissement à Viry-Châtillon. Un déchaînement de violence également à Grande-Synthe dans le Nord, où un jeune homme de 22 ans est mort des suites de ses blessures. Rouée de coups dans la nuit de lundi à mardi sur le parking d'un supermarché. Deux mineurs de 14 et 15 ans sont en garde à vue. Alors comment on en est arrivé là? Question posée ce midi par Gabriel Attal à Viry-Châtillon. Le Premier ministre à la manœuvre pour lancer le Grenelle contre les violences des mineurs et apporter des réponses.
Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. C'est cela que nous sommes venus lancer aujourd'hui depuis Viry-Châtillon. La mobilisation générale de la nation pour renouer avec ces adolescents, juguler la violence, réaffirmer notre projet d'une jeunesse libre et émancipée, reconquérir le droit à la France tranquille, confiante dans l'avenir et sereine dans sa vie. La République contre-attaque, mais elle ne pourra pas le faire seule. Nous ne pourrons pas le faire seuls. Nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés, de la société civile, des familles, des maires, des élus, des parlementaires, de la majorité comme de l'opposition. Je l'ai dit, je ne crois pas que la France soit fondamentalement divisée sur ce sujet.
Gabriel Attal, à l'instant à Viry-Châtillon dans l'Essonne, où vous trouvez Steven Gouaillet pour France Bleu. Bonjour Steven.
Bonjour.
Alors le Premier ministre a insisté dans son discours sur la responsabilisation des parents.
Oui, le Premier ministre qui vient de terminer de prendre la parole à l'heure où je vous parle et qui veut remettre les parents sur le devant de la scène, notamment ceux qui n'assument plus leur responsabilité. L'éducation, ça commence à la maison, a dit le Premier ministre, qui veut punir ceux qui manquent à leurs obligations. En cas de dégâts provoqués par un ado, par exemple, on viendra chercher les deux parents pour payer, annonce Gabriel Attal, qui souhaite aussi réguler les écrans et mieux contrôler l'âge de ceux qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Autre piste, la lutte contre le séparatisme ou contre les trafics de drogue dans les quartiers, des annonces devant des élus, mais pas d'ouverture au grand public, même si quelques curieux ont tout de même suivi la prise de parole à distance derrière les grilles installées. Un discours après une visite à la MJC Saint-Exupéry, un peu plus d'un kilomètre de là, à Viry-Châtillon. Une visite symbolique, vous le disiez, près d'une semaine après la marche blanche en mémoire de Chemseddine. Le Premier ministre qui a pu échanger avec plusieurs jeunes, savoir si eux aussi les voyaient, ces violences au quotidien, au collège, au lycée. Savoir aussi si les sanctions sont suffisantes à leurs yeux, sur les heures de colle par exemple, ou encore justement sur la place des parents pour lutter contre ce phénomène.
Steven Gouaillet en direct de Viry-Châtillon. Châtillon dans l'Essonne pour France Bleu, donc accompagner les familles, aller chercher les parents des missionnaires, lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux, défendre la laïcité, lutter contre le trafic de drogue, doubler aussi la présence des policiers d'ici 2030. Le Premier ministre se donne 8 semaines pour faire aboutir ce travail collectif, un travail sur le temps long qui va engager tous les acteurs, maires, associations, élus, parents, enseignants, sur le modèle un peu du Grenelle contre les violences conjugales. Driss Etazaoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'adjoint au maire d'Évreux, vice-président de l'association de maires, villes et banlieues. Est-ce que vous avez écouté le Premier ministre là à l'instant ?
Écoutez, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Un Premier ministre qui s'inscrit dans la tradition macroniste, à laquelle j'appartiens aussi quelque part, puisque je suis moi-même centriste, et avec un propos équilibré, le propos du en même temps, c'est-à-dire d'un côté la fermeté et de l'autre l'accompagnement. Pas de naïveté, pas de stigmatisation. On partage, nous, au sein de notre association des élus de ville et de banlieue, les éléments de constat du Premier ministre, à l'instant évoqué, tant sur la santé mentale que sur la drogue comme terreau de toutes les difficultés et toutes les manifestations violentes, mais également les questions du repli sur soi, puisqu'on a beaucoup affaire à des enfants qui se sentent davantage des enfants du quartier que les enfants de la République, et puis aussi tout ce qui relève des réseaux sociaux et de l'addiction aux écrans.
Il y a eu quand même un discours de fermeté, quand même, Driss Etazaoui, un sursaut d'autorité. On sent que le Premier ministre veut reprendre les choses en main, et notamment un message de fermeté en direction des parents.
Oui, absolument, vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la fermeté, mais en même temps de l'accompagnement. Sur la question de la fermeté, ce qui nous interroge d'abord dans un premier temps, c'est de lancer, c'est le calendrier, puisque 8 semaines de réflexion, 8 semaines de contribution, alors même que le Premier ministre vient d'ores et déjà de nous dire un peu quelle était sa feuille de route et quelles étaient les principales mesures qu'il entendait mettre en place avec son gouvernement. Donc on peut se poser la question de l'utilité, finalement, de cette grande concertation qui va durer 8 semaines, et 8 semaines en même temps, c'est très peu. Mm-hmm. C'est très peu pour pouvoir mobiliser l'ensemble des forces vives, des corps intermédiaires, pour aboutir à une vraie réflexion. C'est quand même assez short. Et j'ai envie de dire, qu'avons-nous fait de toute la contribution, de toute la réflexion à laquelle ont été invitées les collectivités territoriales à la suite des émeutes, de tout ce matériau et de toutes ces propositions qui avaient été à l'époque sollicitées, en particulier par les préfets de département? Qu'en faisons-nous aujourd'hui, en plus du travail qu'on nous demande d'accomplir sur les 8 semaines qui viennent?
Les émeutes après la mort du jeune Naël à Nanterre,
du jeune Naël, absolument.
Sur un refus d'obtempérer. Nous sommes également en ligne ce midi avec Denis Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Est-ce que vous aussi, vous avez écouté le Premier ministre, et qu'en pensez-vous?
Oui, bien sûr, je l'ai écouté avec la plus grande attention. Vous imaginez bien que le discours qu'il a tenu était attendu par les policiers, et je me félicite de son volontarisme. Alors moi, je ne parlerai pas de sursaut d'autorité, mais de choc d'autorité, et je me félicite de ce discours qui a posé très publiquement et officiellement ce que nous, policiers, nous disons depuis des années. Mm-hmm. C'est-à-dire de traiter les causes et de continuer, bien évidemment, à traiter les conséquences de l'ultraviolence d'une certaine partie de notre jeunesse, mais de s'attaquer aux causes.
Et les causes, c'est dans la famille, Denis Jacob ?
C'est notamment, pas que, c'est notamment, bien évidemment, qu'il y a un débat autour de la responsabilité de l'autorité parentale de la famille. Je relève notamment que le Premier ministre a dit que dans les cas de couples divorcés, c'était les deux parents qui devaient être responsabilisés et payer en conséquence les fautes de leur enfant. Je
trouve ne plus laisser les femmes seules, les familles monoparentales.
Bien sûr, parce que on est parent, qu'on soit divorcé ou pas, on reste parent, et donc on a la responsabilité conjointe de l'éducation. Alors encore faut-il que les deux puissent l'assurer, puisque tout n'est pas simple dans les divorces, mais en tous les cas, on est parent, divorcé ou pas, on le reste. Je relève également le volontarisme de lutter contre les écrans, mais surtout contre les réseaux sociaux. J'attends bien évidemment, la personne qui est intervenue avant moi, mm-hmm, disait on a déjà la...
Driss Etazaoui, oui.
Voilà, on a déjà la ligne du Premier ministre, mais à quoi ça sert d'avoir 8 semaines de travaux, notamment avec les corps intermédiaires? Eh bien justement, les corps intermédiaires, ce sont notamment nous, les représentants syndicaux, quelle que soit la profession, qui sommes au cœur du problème, sur le terrain, et qui savons ce qui ne va pas et ce que l'on doit apporter comme solution. Et notamment, peut-être, de porter dans ces 8 semaines la nécessité d'associer les fournisseurs d'accès à ces plateformes numériques que sont YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, etc., de façon à ce qu'il puisse y avoir un système de travail en ligne directe avec ces plateformes, oui, et la justice et la police, pour que très rapidement il y ait une alerte de mise sur la diffusion de vidéos qui alimentent cette ultraviolence qui se traduit ensuite physiquement dans la rue. Donc tout ça va dans le bon sens. Alors voilà, c'est le constat. Mmh. Le constat et les propositions sont celles que, notamment moi, je porte depuis près de 10 ans pour mon organisation syndicale. Donc aujourd'hui, elles sont rendues publiques, elles sont officialisées. Maintenant, il faut que dans les 8 semaines qui viennent, on ait des mesures très concrètes pour que je pense, après, alors je pense que ça viendra après la pause parlementaire de cet été, oui. Mais que dès la rentrée...
Au moins, il y a un calendrier.
Voilà, il y a un calendrier et qu'on légifère très rapidement pour poser les bases de ce choc d'autorité afin qu'on avance et qu'on règle, qu'on essaye de régler, parce que je ne suis pas non plus un doux naïf, qu'on essaye de régler au maximum cette problématique de l'ultra-violence dans notre jeunesse.
Denis Jacob, vous avez évoqué la responsabilité des plateformes, des réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui sont au cœur de l'agression de Samara le 2 avril dernier devant son collège à Montpellier, roué de coups par 2 garçons et une fille. Samara, 13 ans, est restée dans le coma plusieurs heures à l'hôpital avant de s'en sortir et elle subissait, Adèle Chiron, un harcèlement scolaire depuis plusieurs années.
Devant le collège, Sarah, en 4e, avoue qu'elle voit souvent des élèves se faire harceler.
Depuis longtemps, ce collège, il a une réputation en mode qui est pas bien, quoi. Parce que moi aussi, avant que je vienne dans ce collège, ma mère, elle voulait pas que je vienne ici.
Mourad, venu chercher son fils en 5e, déplore l'inaction de l'établissement. Son garçon subit des violences de la part d'autres jeunes.
Ils ont tapé mon fils. Je suis venu le voir le CP. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, ça va pas se produire et ça reproduit encore. En fait, tu viens te plaindre, ils te rassurent, tu rentres chez toi, il n'y a pas de résultat.
Samara aussi subit du harcèlement depuis longtemps. Inès, en 3e, connaît bien la jeune fille et ne comprend pas pourquoi les surveillants n'ont pas agi.
Quand c'est une fille qui se fait harceler, qui est devant le collège, alors que Samara, ils savent bien que ça fait beaucoup de temps qu'elle se fait harceler, les surveillants, ils sont devant, eh ben, ils font rien.
Pourtant, l'an dernier, la famille de Samara a alerté la direction. La maman, Assiba Radjoul, découvre que rien n'a changé.
J'ai appris aujourd'hui qu'on attachait ma fille et qu'on lui mettait du tabac dans le nez. J'ai appris que la semaine dernière, on a allongé ma fille dans le couloir et qu'on lui a asséné plein de coups au niveau du dos. C'est inacceptable. Il y a des faits qui se passent sur le parvis du collège, dans le collège. Et en fait, il n'y a personne qui voit, mais tous les élèves sont au courant.
La rectrice a assuré que plusieurs mesures disciplinaires ont été prises contre des élèves harceleurs.
Voilà, lutter contre les addictions aux réseaux sociaux, c'était aussi l'un des grands axes du discours de Gabriel Attal tout à l'heure. Laurent Clévenot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes responsable du pôle politique familial chez Famille de France. Le Premier ministre a notamment évoqué le contrôle de l'âge pour s'inscrire sur toutes ces plateformes. Quel est votre sentiment par rapport à ça ?
Bon, d'abord, je ne peux que saluer effectivement un discours courageux du discours du Premier ministre qui balaye à peu près l'intégralité des causes et des problématiques liées à cette violence des jeunes. Mm-hmm. Bien évidemment, la question des réseaux sociaux, des écrans et des pratiques en matière de réseaux sociaux sont clairement et légitimement posées. Mmh. Ensuite, effectivement, on entrera dans des logiques de bras de fer avec les fournisseurs et les solutions techniques qui peuvent être mises en œuvre, mmh. Sachant que quoi qu'il arrive, les parents restent responsables de l'éducation de leurs enfants, de l'âge à laquelle ils vont lui donner son premier téléphone, voire son smartphone, parce qu'il y a aussi des téléphones qui ne font pas smartphone, ce qui facilite qui permet la communication sans avoir accès aux réseaux sociaux, entre autres. Oui. Ce sont des sujets qui doivent être discutés en famille, sachant que là aussi, l'exemple vient d'en haut, c'est-à-dire que si les parents passent leur temps sur leur téléphone à la maison, il sera difficile de dire que c'est un bon exemple pour leurs enfants par la suite.
Donc responsabiliser les parents sur cette question, c'était aussi un des axes du discours de Gabriel Attal, qui veut aussi condamner les parents qui ne se rendent pas chez le juge.
Oui,
des amendes.
Tout ça est effectivement évident et s'applique, je pense, à toute personne qui ne répond pas à une convocation chez le juge. Mm-hmm. Il n'y a rien de spécifique pour les parents. Il y a néanmoins dans le discours, alors même si nous avons commencé cet échange, il n'avait pas tout à fait terminé, il y a deux aspects qu'il n'a pas du tout évoqués, me semble-t-il, c'est la violence dans le sport.
Oui.
Sur les terrains de foot le dimanche, et ainsi de suite. Ça, c'est un aspect important. Et l'autre point, qui justifie d'ailleurs ce travail collectif pendant 8 semaines, quand on parle d'autorité, il y a de la cohérence. On sait tous qu'un enfant, quand sa mère lui dit non, ou son père lui dit non, va aller chercher un avis différent de la part de l'autre parent. Il n'a pas beaucoup évoqué à ce stade la question de la cohérence.
Sur le sport, il a quand même évoqué les clubs sportifs et la laïcité au sein des clubs sportifs.
donc parfait. J'avais dû le rater. Non, la question de la cohérence, c'est-à-dire les propos du Premier ministre sont très clairs au niveau du Premier ministre. On sait ensuite qu'il y a effectivement toute la déclinaison des lignes hiérarchiques nombreuses et variées qui vont jusqu'au terrain. Et on voit que quand on parle d'éducation, on parle du terrain. Donc moi, j'entends la fin, le discours du Premier ministre comme étant la fin du pas de vague dans un certain nombre d'administrations. Et où, subitement, tout le monde va enfin regarder la vérité, dire la vérité et accepter de prendre les actions en face de ces réalités qui, certes, ne concernent pas l'ensemble de la jeunesse. On voit bien qu'à la jeunesse, il y a quelques jeunes qui sont ultra-violents et lui, le Premier ministre, on a très bien dépeint le phénomène. Et puis on a des problématiques, là pour le coup plus générales, et des pratiques qu'on a peut-être perdu de vue tout au long des années et sur lesquelles on va revenir progressivement.
Mais la famille est quand même largement mise à contribution.
Oui, bah c'est normal. C'est la première éducatrice, et on sait très bien qu'un enfant, dans sa prime jeunesse, va apprendre à respecter, va apprendre à écouter. Il y aura la crise de l'adolescence ensuite, bien évidemment, comme chez tout le monde. Mais un enfant laissé devant les écrans à longueur de journée ou presque chez soi, et les parents occupés par ailleurs sur leur propre téléphone, comme je le disais, l'éducation, c'est aussi du temps, c'est des valeurs, mais c'est aussi du temps. Il faut trouver du temps à passer avec ses enfants pour faire des activités en commun et regarder la télévision, oui, un petit peu, mais il y a d'autres choses que la télévision ou les écrans.
Laurent Clévenot, responsable du pôle politique familial chez Famille de France. Driss Etazaoui, adjoint au maire d'Evreux, vice-président de l'association de maires, villes et banlieues. Vous êtes également avec nous ce midi dans Ma France pour réagir au discours du Premier ministre sur les violences des mineurs. Passez du temps avec les enfants. Vous vous en passez au quotidien du temps avec eux?
C'est à moi que s'adresse la question.
Driss Etazaoui, oui. Vous faites du travail de prévention?
Oui, absolument. Oui, et ça me permet de faire le lien avec les trois mesures importantes que le Premier ministre a annoncées, notamment sur la dimension de l'instruction, c'est-à-dire l'école. Oui. Et comment est-ce qu'on lutte contre l'oisiveté ? Lutter contre l'oisiveté, c'est bien. Maintenir les enfants de 8h30 à 18h, c'est très bien. Par contre, là où ça pose une difficulté, c'est demain sur les modalités, sur les moyens. Aujourd'hui, nous avons 15 millions d'heures qui ne sont pas remplacées. C'est l'équivalent d'une année scolaire sur un parcours classique. Donc, comment voulez-vous qu'on crée des heures d'enseignement moral et civique, qu'on crée une école du civisme, si nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de remplacer les 15 millions d'heures à l'école auxquelles se soustraient involontairement nos enfants et qui sont absolument nécessaires dans la transmission des apprentissages. Deuxième sujet, le Premier ministre nous disait une signature pour les parents d'un contrat d'engagement à l'entrée de l'école. Mais ça existe déjà. Quand vous avez des enfants qui sont en difficulté scolaire, qui posent des problèmes de discipline, eh bien, vous avez des contrats qui sont signés, des contrats d'engagement qui sont signés entre l'éducation nationale, entre l'école, que ce soit l'école élémentaire ou que ce soit le collège, avec les parents, de manière à suivre et à jalonner le parcours de l'enfant. Donc, cela existe déjà. Enfin, et dernier sujet, la question des internats. Eh bien, les internats, ils existent. Ce sont les internats d'excellence, notamment dédiés en particulier au quartier de la politique de la ville. Donc, vous voyez, on a trois mesures, là, finalement, qui posent quand même question. Donc, il y a les annonces, et c'est important que ces annonces existent. Et puis, il y a notre capacité, tous, à les mettre en œuvre. Est-ce que la question... Pardon, une dernière chose, j'en termine, parce qu'il faut aborder le sujet avec beaucoup d'humilité. Mettre le focus sur les parents, c'est bien, ils sont effectivement sur la ligne de front. Mais pour autant, ils ne sont pas seuls. Vous avez une responsabilité qui est toujours partagée, c'est celle de l'État et des collectivités territoriales. Aujourd'hui, les communes sont compétentes en matière de médiation sociale pour prévenir les conflits. Les départements sont au cœur du sujet, avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance et la protection de l'enfance. Quid des contrats d'engagement aussi, au sein des départements. Donc, vous voyez, nous devons ensemble, nous imposer avec beaucoup d'humilité l'évaluation de nos politiques publiques et l'évaluation de nos dispositifs aux côtés des parents.
Driss Etazaoui, adjoint au maire d'Evreux, Gabriel Attal qui annonce justement sur la question des internats que vous évoquiez qu'il se rendra à Nice avec Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux. Donc lundi, avec nous également ce midi, Valentin Rabault, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maire de Arenheim en Alsace.
C'est ça.
Et vous aussi, vous avez écouté attentivement le Premier ministre, on imagine. Hein, votre commune a récemment connu une agression d'une grande violence, une adolescente de 13 ans agressée par 4 mineurs, c'est ça ?
Alors, l'agression est caractérisée, la grande violence ne le serait pas. Moi, bien sûr, j'ai écouté, je suis en phase avec tout ce qui vient d'être dit d'ailleurs. Les intentions sont bonnes. Le fait de dire on déclenche à nouveau une grande concertation nationale, on y associe tous les acteurs de l'éducation et du civisme, qu'on fasse un Grenelle, tout cela, les intentions sont bonnes. Moi, ce qui m'intéresse de façon très pratico-pratique, je suis maire d'une commune de 2500 habitants, paisible, avec un collège que beaucoup de communes nous envient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mesures qui vont en sortir.
Oui,
ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que le dispositif législatif et réglementaire n'existe-t-il pas déjà, comme dans beaucoup de situations. Déclencher un Grenelle, pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va en sortir. Et puis, en conséquence, l'efficience des mesures, l'applicabilité, pas forcément des peines, évidemment, mais l'applicabilité des mesures de prévention, des mesures familiales, des mesures publiques, de politique publique. Mmh. Moi, je pense qu'on a un vrai... Donc, les intentions sont bonnes. OK. Je pense qu'on a un vrai problème de méthode. Nous discutons aujourd'hui autour de votre émission, et c'est parfaitement légitime, alors que nous sommes encore dans l'émotion d'agressions très graves qui ont d'ailleurs
conduit trop rapidement, selon
un décès.
Mmh.
Pardon ?
C'est allé trop rapidement, selon vous ? On n'a pas laissé le temps de l'émotion ?
Alors, je vais passer par la vertu de l'exemple. Ce qui s'est passé à Arenheim, et je parle au conditionnel, c'est une agression, pas violente, mais une agression sur une collégienne. Et la plainte qui a été déposée par le parent établit l'agression à raison de motifs religieux, c'est-à-dire de non-respect du rupture du jeûne du Ramadan. Il ressortirait, parce que je parle évidemment au conditionnel, que cette qualification n'est pas retenue, que c'est une agression. J'insiste, que je mets tout au conditionnel. Qu'il s'agirait d'une simple baffe, j'apprends aujourd'hui que ce serait toujours au conditionnel parce que la jeune fille agressée, et une agression n'est jamais acceptable évidemment, la jeune fille aurait eu son sac sur les sièges du bus et ses chaussures sur les sièges du bus et d'autres, les enfants qui l'ont agressée souhaitaient simplement s'asseoir. Je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Simplement, soyons factuels. Objectif, et nous sommes dans une forme de médiatisation, et c'est légitime, une médiatisation qui conduit à une forme d'emballement, sur fond d'agression, elle, très grave, notamment en région parisienne, avec des conséquences qui fait qu'on attise une forme d'autre violence morale et de haine, et tout ça dans un contexte politique que sont les européennes. Moi, je suis assez sceptique. Parlons d'abord du factuel, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, pour ce qui me concerne, à Arenheim, la qualification des faits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il s'est réellement passé, ce sont les services de gendarmerie qui doivent l'établir, et la matérialité des faits, qu'est-ce qui s'est réellement passé, ce sont les gendarmes, et la qualification des faits, ben, c'est le parquet et la justice.
Donc prudence, moi, je pense qu'il faut appel à la prudence, Valentin Rabault.
Vraiment, un appel à la prudence, c'est capital. Moi, je vois qu'on
très
se
rapidement parce qu'on doit, on doit pense, conclure. Hein. Oui.
Ouais, je pense que c'est prématuré de se donner 8 semaines, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut se poser, analyser les causes, travailler en dehors de l'émotion, surtout avec ce qui se passe en région parisienne. Et puis, il faut travailler ensemble. Et ensuite,
travaillons ensemble. Merci beaucoup, Valentin Rabault. Je suis désolée de vous couper. On est arrivé au terme de cette séquence, donc sur le discours de Gabriel Attal à Viry-Châtillon. Pour lutter contre les violences des mineurs, le gouvernement se donne 8 semaines. Ma France revient dans quelques minutes. On visite le chantier de Notre-Dame. À tout de suite.
Ma France sur France Bleu. Ici, on parle d'ici.
C'est la vie sur France Bleu. Chaque jour, des histoires de vie.
Bonjour.
Géraldine Maillère.
Vous n'imaginez pas le plaisir que c'est, et j'espère que vous en prenez autant à tendre l'oreille, à écouter les histoires de ceux et de celles qui acceptent de se confier. Certains de ces témoignages sont durs à entendre, font réfléchir, relativiser. Certains sont plus légers et redonnent le sourire.
C'est la vie, demain sur France Bleu, dès 14h.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Ma France, sur France Bleu, Marine Logénie.
Que représente Notre-Dame de Paris pour vous? Suivez-vous le chantier de sa restauration, la flèche, la charpente, les vitraux, les peintures? Un peu plus de 5 ans après l'incendie, on fait le point dans Ma France, 0810 055 056 pour nous donner vos témoignages. La première messe, elle, est prévue pour le 8 décembre à Notre-Dame.
Ma France sur France Bleu, ça se passe bien chez vous.
Avant cela, ça se passe bien chez vous avec cette première en Moselle, un stage de citoyenneté pour atteinte à l'environnement. C'est une alternative aux poursuites pénales pour les petits délits. Une initiative du parquet de Metz avec l'Office français de la biodiversité et l'association Lorraine Nature Environnement. Sensibiliser donc plutôt que sanctionner comme ici à Vigy, c'est au nord de Metz, Julie Seignura.
Autour de la table, 7 stagiaires, agriculteurs, chefs d'entreprise, mais aussi des responsables d'associations comme Laurent Marquez, le président de club de foot de Dieuze.
On a commis une infraction, l'année dernière, en arrosant un terrain de foot en dehors de l'arrêté préfectoral qui avait été mis en place pendant la période sécheresse.
Laurent plaide l'erreur, mais l'épisode n'a pas été simple à vivre pour lui et ses bénévoles.
Oui, mais à culpa, ils sont pas venus le matin à 8h00 enlever les robots et parce que ça déconnait aussi. On se dit, mince, on s'investit dans la vie sociale, voilà. Maintenant, à côté de ça, je vais réveiller à ce qu'il n'y arrive rien et me mettre en phase aussi avec la municipalité.
Avec ce stage qui lui est facturé 150 €, il évite tout de même la casse tribunale et une amende qui aurait pu atteindre 7 500 €. Au programme donc de la journée, rappel de la loi, des enjeux climatiques, de la biodiversité le matin et l'après-midi, déplacement sur le terrain, dans la nature. Ces stages pourraient se tenir dorénavant 3 à 4 fois par an en Moselle.
Julie Seignura, France Bleu. Lorraine, bonjour Céline.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargée de mission à l'association Lorraine Nature Environnement, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Alors, quelles sont les infractions les plus courantes de vos stagiaires?
Alors, durant ce stage, on a eu quelqu'un qui avait une détention illicite d'animaux sauvages. On a eu
des animaux exotiques, c'est ça?
Oui, c'est ça. Des déversements de substances nocives pour la santé et l'environnement dans les eaux. On a eu une gestion irrégulière de déchets. On a entendu le non-respect de la réglementation sécheresse. Et puis, une chasse à l'aide d'engins prohibés.
Quand vous parlez de ces animaux exotiques, c'est quoi, parce que qu'on soit au courant?
En l'occurrence, c'était tortues.
Donc, c'est interdit d'en avoir chez soi. D'accord.
Oui, ça dépend. Il y a des espèces protégées, d'autres qui ne sont pas.
Alors, quelles sont les réactions des stagiaires? Est-ce qu'ils sont un petit peu sceptiques? Est-ce qu'ils se laissent convaincre?
Alors, ils sont arrivés, bien entendu, un peu sceptiques, pas forcément très heureux d'être là. Et on s'est rendu compte que tout au long de la journée, l'ambiance a changé. Je pense qu'ils ont pris conscience de la fragilité de l'environnement, de la biodiversité. Et on a fini la journée sur vraiment des gens qui ont pris conscience de ces enjeux-là et qui finalement nous ont dit « on a appris des choses ». Donc ça s'est très bien passé.
Et vous leur faites faire quoi ?
Alors, le matin, c'était plutôt théorique, donc on a eu l'intervention du procureur. Ensuite, l'intervention des associations, on a parlé des grands enjeux, finalement, de l'enjeu autour du climat. On a aussi calculé notre empreinte carbone, tous autour de la table. On a fait des tours de table, on a discuté, on a échangé. Et puis, bien sûr, on a eu la présence de l'Office français de la biodiversité et on a parlé de l'effondrement de la biodiversité. Donc, on est passé à travers tous les grands enjeux environnementaux.
Et tous des freins psychologiques qui se lèvent au fur et à mesure, on va dire.
Absolument, absolument.
Merci beaucoup Céline Mauguen d'avoir été avec nous ce midi dans Ma France. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à l'association Lorraine Nature Environnement. C'était le 15 avril 2019, un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des images qui ont fait le tour des JT à l'époque et attristé le monde entier.
L'un des symboles de la capitale française. Voici sa flèche qui culmine à 93 mètres, brûlée par les flammes. Elle vient à l'instant de s'effondrer.
Et le 16 avril, le président de la République Emmanuel Macron promettait sa restauration et sa réouverture en 5 ans. Nous y sommes presque. La première messe est programmée au 8 décembre prochain. On attend vos appels sur Notre-Dame, sur ce chantier gigantesque et un peu magique, il faut le dire. 0810 055 056 pour nous raconter votre rapport à ce monument, l'un des plus emblématiques de notre pays. Nous sommes avec Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en duplex de France Bleu Hérault. Est-ce que vous vous souvenez personnellement où vous étiez, vous, ce 15 avril 2019?
Je m'en souviens très bien. J'étais à 200 mètres derrière Notre-Dame de Paris. Un ami qui travaillait dans le quartier m'avait averti qu'il y avait de la fumée qui s'échappait de Notre-Dame. J'avais couru pour voir ce qui se passait et j'ai assisté donc à tout l'ensemble des épisodes, l'effondrement de la flèche.
On était un peu tétanisé.
Ah oui, c'était vraiment une émotion comparable un petit peu à un 11 septembre patrimonial, si vous voulez. Alors évidemment, c'était pas un attentat, il n'y a pas eu de victimes. Bon, mais l'émotion, c'était celle-là. C'est un monument emblématique qui disparaît dans les flammes.
Paris tenu, donc sur le calendrier, 5 ans après.
Oui, Paris tenu, avec une mobilisation exceptionnelle des personnes, des matériaux, de l'administration, de l'État, du diocèse, de la ville de Paris. Tout le monde s'y est mis et finalement, ça semble vraiment s'annoncer sous de très bons auspices pour la fin.
Marie Parent, c'est un peu grâce à vous aussi que le Paris est tenu. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes restauratrice de peinture murale. J'ai envie de dire même question parce que ça nous a tous marqué. Ce 15 avril 2019, vous étiez...
Alors moi, j'étais dans mon atelier dans le quartier de la Bastille. Alors moi, c'était l'inverse. Je suis allée me réfugier chez moi tellement j'étais traumatisée. Et puis, je regardais ça en direct à la télévision. Mais j'étais très traumatisée, sincèrement.
Et comment vous vous êtes retrouvée sur ce chantier de Notre-Dame ?
Alors, moi, ça fait très longtemps que je travaille pour Notre-Dame. Je m'occupe un petit peu des tableaux. Ça fait plus de 20 ans. Et puis, là, sur le chantier, il y a eu un appel d'offres pour la restauration des peintures murales. Et j'ai fait un groupement de restauratrices. On a eu 2 lots sur 3 pour les peintures murales de Notre-Dame.
Quand est-ce que vous avez pu prendre connaissance de l'ampleur des dégâts sur ces peintures ?
Alors, j'y suis retournée quelques mois après l'incendie. Donc, il y avait des visites autour de l'appel d'offres. Et là, écoutez, j'étais très très impressionnée, par l'état des dégâts et par l'état intérieur de la cathédrale.
Et aujourd'hui, l'intérieur ?
Alors aujourd'hui, c'est le jour et la nuit parce que tout est propre, les pierres ont été nettoyées, donc c'est vraiment une renaissance.
Mathieu Lours, historien spécialiste des cathédrales, l'intérieur de la cathédrale aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. C'est beaucoup plus lumineux.
Évidemment, puisqu'on avait laissé Notre-Dame de Paris sans nettoyage intérieur pendant 160 ans. C'est une cathédrale qui souffrait d'un profond déficit d'entretien et de restauration. L'incendie a rendu possible des choses qui auraient dû être faites pendant les 50 dernières années, en réalité. La présentation intérieure de la cathédrale va nous plonger au cœur de l'esprit du Moyen-Âge. C'est-à-dire, on dit dans le gothique « Dieu est lumière », l'importance de la lumière. Mais à Notre-Dame de Paris, on avait l'impression que la lumière, c'était... simplement les vitraux qui permettaient à cette lumière de rentrer dans l'édifice, qui était un peu comme une caverne. Maintenant, l'ensemble de l'intérieur rayonne de lumière, avec des parements d'une blondeur qui est celle du lait de chaud. Une blondeur, oui, c'est vraiment ça. C'est pas la blancheur, elle a été blanche à un moment de son histoire, au XVIIe, XVIIIe siècle, quand on l'avait peinte en blanc à l'intérieur. Ensuite, Viollet-le-Duc, ça a été du lait de chaud, blond, mais avec des joints en pierre apparents. Et aujourd'hui, c'est cette blondeur qui renvoie à l'uniformité, tout en gardant les joints Viollet-le-Duc, mais qui sont passés sous le lait de chaud. C'est donc l'esprit du Moyen-Âge qu'on retrouvera quand on pourra à nouveau accéder à Notre-Dame le 8 décembre.
Marie Parent, restauratrice de peinture murale, je vous vois acquiescer, elle est lumineuse.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'avant, le regard s'arrêtait au niveau des lustres, et maintenant, on est vraiment attiré vers le haut de la cathédrale. Sincèrement, ça change tout.
Comment vous avez travaillé ? C'est long à expliquer, j'imagine, aux auditeurs, mais c'était recouvert de poussière.
Alors, comme comme m'a dit mon prédécesseur, beaucoup de crasse. Voilà. Oui. C'était une cathédrale très encrassée. Certaines chapelles ont été restaurées dans les années 2000, mais la plupart n'ont pas été restaurées depuis l'époque de Viollet-le-Duc. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'encrassement, beaucoup d'encrassement. Voilà.
Et est-ce que ce chantier fascine ? Est-ce que ça a suscité des vocations ?
Alors, ce qui nous fascine, tous les corps de métier confondus, c'est qu'on fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'on restaure les peintures murales, on restaure les sculptures, on restaure les parements, on nettoie les vitraux. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et des vocations, je pense qu'effectivement, c'est tellement extraordinaire que j'espère qu'il y a plein de jeunes personnes qui seront motivées pour faire ce genre de métier.
Un chantier, en tout cas, qui fait rêver la France. Deux maquettes en bois de plusieurs mètres de haut. Les répliques de la flèche et du cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont fait le tour de notre pays à travers plusieurs expositions. Elles ont fait escale à Limoges quelques jours au musée des Compagnons. C'est dans les jardins de l'évêché de la ville. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des visiteurs, Cédric Hermel.
On se dit que c'est assez impressionnant et que c'est beau.
C'est très impressionnant. C'est super beau.
Jusque dans les moindres détails pour Agnès.
Je suis un petit peu étonnée entre la proportion des statues qui sont déjà très grandes par rapport à la hauteur de la flèche.
Yannick se focalise, lui, sur la structure.
On ne se rend pas compte de la conception, de l'assemblage, du travail que ça peut être. Et il ne faut pas oublier que ça, c'est juste une maquette.
En parlant de taille...
Vous êtes plus grand que moi et vous êtes obligé de lever les yeux au ciel pour la regarder.
Ça va très haut quand même. Hein.
Le haut de la flèche culmine à presque 4 mètres et tout est reproduit à l'identique de la vraie cathédrale. Les gargouilles, les charpentes...
Il y a plein de détails que moi, je ne saurais pas faire.
Lucie détaille.
Comme les personnes là qui sont là, on voit des petits traits très fins, donc ça doit être compliqué de faire tout ça. Déjà, en maquette, ça doit être compliqué, mais dans la vraie vie...
Je pense que ça n'aurait pas été fait s'il n'y avait pas eu cet incendie. C'est une résilience différente.
Tout le monde a encore les images en tête.
Voici sa flèche qui culmine à 93 mètres, brûlée par les flammes. Elle vient à l'instant de s'effondrer.
Je pense qu'un jour on ira à Paris voir la vraie cathédrale refaite.
En attendant, des centaines de personnes se pressent pour la voir en miniature à Limoges.
Jean-Louis Bidet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez supervisé la restauration de la charpente. On voit que vraiment ce travail du bois, ça fascine. On l'a entendu dans le reportage de France Bleu Limousin de Cédric Hermel. Et le 12 janvier, ça a été un jour important, émouvant pour vous, avec la fin de la charpente du cœur, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Tout à fait. La pose du bouquet qui marque la fin d'une installation d'une charpente reconstruite ou construite, en l'occurrence Notre-Dame, c'est ça. Les charpentes du chœur et de la nef reconstruites suivant les techniques d'époque du 12e, 13e et époque médiévale, reproduites le plus fidèlement possible par rapport à ce qu'elles étaient avant l'incendie.
Comment on travaille le bois?
Formidable travail de recherche d'abord.
Comment on travaille le bois comme à l'époque?
Le travail du bois. Choisir ces arbres en forêt, choisir ces pièces de bois dans ces arbres. En fait, l'ONF a apporté énormément à travers la gestion des forêts pour mettre des arbres à disposition. Nous avons passé des journées formidables en forêt pour choisir nos pièces de charpente nécessaires, qui les mêmes sections, les mêmes longueurs que celles de la charpente d'origine, pour être au plus près ensuite dans la reconstruction. Tout ça a été équarrié avec des outils, si on parle des charpentes médiévales, donc des haches, des deloirs, équarrir ce travail, équarrir ces grumes en sortir des pièces de charpente.
On taille le bois à la hache, les poutres de chêne à la hache.
On taille le bois à la hache, exactement, sur les quatre faces, pour être au plus près des sections, pour avoir un parement semblable à ce qu'elles étaient avant, avec des haches que l'on a refait spécialement dans un atelier réouvert en Alsace chez des Thaïlandais, qui ont reproduit 60 haches attitrées à Notre-Dame, des haches des Deloires, qui ont servi avec toutes les équipes de charpentiers pour débiter les bois, faire le taillage avec d'autres outils de notre époque quand même, pour aller ensuite monter ces charpentes uniques dans le ciel de Paris, sur les murs bahuts de la cathédrale.
Mathieu Lourdes, historien spécialiste des cathédrales, c'est incroyable hein, ce travail des artisans sur le chantier de Notre-Dame.
Oui, c'est la première fois que l'authentique remplace l'identique sur un chantier. C'est une véritable révolution dans la doctrine de restauration. Et je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à l'établissement public qui a rendu ça possible et aux architectes, à commencer par l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, qui dirige ce chantier, qui est vraiment un chantier exemplaire.
Jean-Louis Bidet, vous avez charpentier, donc sur ce chantier, vous avez ressenti quoi comme sentiment, de la fierté, de l'émotion ?
Les deux à la fois, plus ou moins visibles, mais chacun en soi a porté quelque chose. Il y avait une énergie, on peut appeler une énergie Notre-Dame, d'aller vers l'objectif commun de reconstruire dans les délais et suivant la qualité attendue. C'est un formidable travail d'équipe. Des gens se sont réunis dans les ateliers en France et nous, à Saint-Laurent-de-la-Plaine, en Anjou, aux ateliers Perrault, c'était le cas. Mmh. Dans des ateliers en Normandie, dans d'autres endroits en France. Les gens qui, de pouvaient être concurrents quelquefois sur d'autres marchés, se sont retrouvés à Notre-Dame pour réaliser l'œuvre Notre-Dame ensemble. Aujourd'hui, c'est réussi, les charpentes sont en place. C'est le temps des couvreurs aujourd'hui qui vont protéger notre charpente qui va commencer à vivre en situation, parce que débiter de bois, la tailler, la mettre en situation, la lever, et maintenant elle est en place pour, espérons, des centaines et des centaines d'années de nouveau.
Voilà, j'allais vous demander qu'est-ce qu'il vous reste et à faire là jusqu'au 8 décembre.
Ah. Eh ben écoutez, alors il reste encore des choses à faire. Il y a dans le grand comble en fait, il y a des charpentes à terminer, des travaux de finition. Mm-hmm. Il y a les travaux du beffroi en fait qui existent aussi, qui ont été touchés par l'incendie. Le beffroi notamment dans la tour nord, des quelques flammèches étalées. Abîmer cette structure en chêne construite par Viollet-le-Duc, c'est une autre technique de restauration qui va être à reprendre aussi, et tout ça pour ensuite que les cloches de nouveau battent à la volée, sonnent et se fassent entendre, et puis pour que le 8 décembre tout ça soit prêt. Donc le travail des compagnons réunis sur Notre-Dame, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ont très très bien calibré le chantier en termes de logistique, en termes de d'études techniques, en termes de qualité attendue qui va être là à l'arrivée. Et c'est formidable et Notre-Dame est unique à tout point de vue.
Mathieu Lours, on sait combien d'artisans ont participé à ce chantier au total ?
Sans doute un millier au moins, sans compter ceux qui ont travaillé en amont dans l'atelier. C'est une mobilisation qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps, hein, en termes de quantité, de synchronisation. Et là encore, l'établissement public en termes de gestion, des équipes, gestion du temps, gestion des lieux. Il y a toute une géographie du chantier qui couvre la France entière et au-delà, hein, du point de vue de l'approvisionnement, de la réalisation. C'est absolument incroyable.
Est-ce qu'on a fait des progrès grâce à ce chantier, techniquement ?
Oui. Alors, des progrès dans la connaissance, des progrès dans la modélisation, ça, ils avaient été faits un petit peu avant. Hein. Rémi Fromont avait, par exemple, relevé la charpente. Andrew Talon, un chercheur américain, avait fait un relevé de Notre-Dame de Paris. Vous avez Livio De Luca, un architecte italien, qui travaille actuellement à ça aussi. Donc, il y a l'aspect technologique. Et puis, il y a aussi, dans la reproduction des gestes du Moyen-Âge, des progrès qui ont été effectués. C'est-à-dire que s'il s'agit plus de travailler...
Charpente,
voilà, pour que les choses aient l'air d'être du Moyen-Âge, mais pour qu'elles soient matériellement travaillées par des gestes comparables à ceux qui nous ont été transmis.
Et il y a une petite touche de modernité aussi de 2024, notamment sur le coq au sommet de la flèche. Vous pouvez nous parler de cette spécificité des ailes ?
Oui, alors à l'intérieur, il y aura beaucoup d'éléments nouveaux, tout le mobilier liturgique, les chaises, voilà. Mais à l'extérieur, la seule touche qui soit esthétiquement contemporaine, c'est ce coq. Ouais. Philippe Villeneuve, qui l'a dessiné, a voulu que les ailes du nouveau coq évoquent des flammes, c'est-à-dire la renaissance de la cathédrale après l'incendie. Et puis symboliquement, les flammes, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Voilà, il y a plein... Autant, le coq, c'est déjà extrêmement symbolique, lui rajouter les flammes, puis placer ça au sommet du centre de Paris à 96 mètres de hauteur, ça veut dire beaucoup.
Et le mobilier est signé Guillaume Bardet, le designer. Est-ce qu'il y a une génération Notre-Dame, Marie Parent, vous êtes restauratrice de peinture murale chez les artisans. Est-ce que vous pensez qu'une génération émerge ?
Ben, je le souhaite. Ouais. En tout cas, la moyenne d'âge du chantier est quand même très jeune, on va dire entre 25 et 35-40 ans, donc c'est plutôt bon signe. Et ben, il y a eu pas mal de stagiaires, beaucoup de gens qui, c'était leur première expérience professionnelle.
Mais il y a eu des transmissions.
Il y a eu des transmissions et surtout chez les charpentiers, je trouvais que la moyenne d'âge était très très jeune. Voilà, il y a vraiment des transmissions, ça c'est très important.
Françoise a composé le 0810 055 056 pour nous parler de Notre-Dame. Bonjour Françoise.
Bonjour, justement je confirme que je suis ravie au niveau de l'expérience de cette jeunesse qui arrive sur le marché du travail, parce qu'on dit que les personnes qui veulent travailler, voilà, parce que s'il y en a qui veulent travailler, ça chapeau. Et ça,
vous êtes contente de cet engouement.
Il faut valoriser ça, voilà. Et il y a autre chose que je voulais aussi signaler, parce que je crois qu'on est limite en temps, c'est surtout aussi au niveau des matériaux, notamment au niveau de l'incendie en lui-même, les progrès que ça va apporter.
Oui.
Au niveau de comme il y avait un robot qui était rentré dans la cathédrale, enfin tout ça. J'espère que tout ça, au niveau, puisque là c'est quand même un bâtiment exceptionnel, que ça va servir un petit peu dans la même façon qu'une course de Formule 1 sert à améliorer la voiture de monsieur et madame tout le monde.
Alors Mathieu Lourdes avait esquissé un petit début de réponse à votre question, Françoise. Est-ce que ça va servir pour l'avenir ?
Oui, ça va servir pour l'avenir, ça va servir en cas de désastre, mais ça va servir, j'espère aussi, à prévenir les désastres. Toutes ces technologies, elles peuvent empêcher des incendies. Et puis, il faut bien voir que le problème pour la majorité des monuments en France, et en particulier les églises, c'est le déficit d'entretien. C'est-à-dire que si on commence à ne pas remplacer une tuile, si on commence à ne pas anticiper certaines choses, bah évidemment, on n'aura pas un gigantesque incendie, mais le monument va dépérir. Là, je suis dans l'Hérault actuellement, je connais bien la collégiale Saint-Jean de Pézenas, il serait peut-être temps d'intervenir pour la couverture et les cloches. C'est le début, c'est le béaba. Et il faut, je prends un exemple, mais il y en a plein d'autres. Donc il faut anticiper et essayer en fait d'éviter que le désastre, d'éviter que le dépérissement arrive. Mais il faut aussi, évidemment, le jour où ce désastre arrive, le moins souvent possible, qu'on ait les réponses adéquates. Et Notre-Dame nous permet d'anticiper ce genre de réponse.
Et est-ce que ça a changé, selon vous, le regard de la jeunesse donc sur ces chantiers? Est-ce que ça décloisonne en quelque sorte?
Oui, moi je vois mes étudiants, dès qu'on leur parle du chantier de Notre-Dame, ils ont des lumières dans les yeux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ce qu'on leur apprend sur le Moyen-Âge, sur la construction médiévale, eh bien, trouve une actualité. Et certains d'entre eux, en particulier qui se destinaient plutôt à l'histoire de l'art, enchaînent parfois sur des CAP, en taille de pierre, en charpenterie, parce qu'ils découvrent qu'un métier manuel, c'est un métier d'excellence. Mmh. La France a beaucoup souffert de cette dévalorisation de l'outil, de la main, de l'usage et de l'intelligence que ça nécessite. Et les monuments historiques peuvent servir à une véritable révolution éducative pour revaloriser ces métiers.
Alors, je vous propose d'écouter maintenant ce reportage. On ne peut pas entrer dans la cathédrale Notre-Dame, mais il existe une visite virtuelle tous les jeudis et samedis à la Cité de l'architecture et du patrimoine. On peut entrer dans la cathédrale grâce aux jumeaux numériques de Notre-Dame, en quelque sorte, casque virtuel. Sur la tête, les visiteurs peuvent profiter du même outil qui a servi au travail des scientifiques sur l'édifice pour se rendre, Sarah Mansoura, dans des endroits totalement inaccessibles jusque-là.
Le corps reste dans une salle sombre de 150 mètres carrés, mais les yeux voyagent à l'intérieur du monument.
Vous voyez, là, je viens d'afficher un cylindre bleu qui permet de se téléporter. Je vous invite à rentrer à l'intérieur.
Avec Mehdi Tayoubi, vice-président stratégie et innovation de Dassault Systèmes, on marche dans une cathédrale grandeur nature grâce à des empreintes numériques prises par laser avant et après l'incendie.
Les données dans lesquelles on va se voyager sont constituées d'1,4 milliard de points. Demandez à la plateforme de s'élever.
Mais on peut aussi et surtout monter très haut, attention au vertige, pour observer de près et en 3D sculptures, charpentes ou toitures.
Là, vous avez une tête d'ange magnifique juste ici, à laquelle on voit même la signature du compagnon à l'époque de Viollet-le-Duc qui avait peint ces sculptures.
Un outil inestimable pour les scientifiques.
C'est incroyable.
Clara Penagos, ingénieure d'études au CNRS, travaille sur le bois. Elle a pu manipuler in situ des vestiges virtuels de poutres calcinées.
On va nous ramener un modèle à échelle 1 et essayer de le placer directement sur le nuage de points à l'endroit où on imagine qu'elle pouvait être. C'est vraiment très simple en fait. Ça nous permet d'avoir une image fixe en quelque sorte et évidemment extrêmement facile à manipuler sans compter le poids puisque vous imaginez bien qu'une pièce de bois de 5 mètres c'est un peu lourd à manipuler.
Tout au long du chantier de restauration, de nouvelles empreintes numériques sont régulièrement prises pour continuer à enrichir ce jumeau virtuel.
Reportage Sarah Mansoura pour France Bleu. Ça vous tente, Marie Parent? Vous êtes restauratrice de peinture murale. Une petite visite virtuelle, vous l'avez faite peut-être?
J'ai fait celle qui est dans l'exposition qui est juste à côté de Notre-Dame, mais pas si scientifique et si technique.
Mathieu Lours, une réaction peut-être à ce jumeau numérique de Notre-Dame?
C'est fondamental parce que c'est un outil pédagogique qui joue à la fois sur la connaissance, sur l'émotion, et ça permet de... Alors, c'est pas la même émotion quand on est dans le monument ou face au monument, mais ça permet plein de choses. Ça permet d'une part à des gens qui sont pas vraiment dedans, soit parce que le monument est inaccessible, soit parce qu'il est loin, de le voir. Et puis, ça permet surtout une plongée dans l'état antérieur du monument. Mm-hmm. Ça permet une plongée dans les siècles, de montrer comment il a évolué. Donc, il faut pas que ça se substitue à l'expérience de l'architecture,
oui.
Mais c'est un outil vraiment très intéressant.
Et il y aura un musée aussi dans cette nouvelle Notre-Dame?
Oui, à côté de Notre-Dame, probablement dans l'Hôtel-Dieu, on aura un musée dans lequel on présentera tous les objets et puis tous les éléments de connaissance de Notre-Dame. Il y a déjà des collections qui sont en attente depuis des années, depuis que l'ancien musée de Notre-Dame a fermé.
Ouais.
Et ça va évidemment forcément s'enrichir et être un lieu qui permet de déployer la compréhension de Notre-Dame.
Attirer des visiteurs, hein, puisqu'il y a 12 millions de visiteurs par an avant l'incendie qui passaient par Notre-Dame. Un mot pour terminer, Mathieu Lours, sur le le financement de ce chantier, avec un afflux quand même de dons incroyable. Oui.
340 000 donateurs, l'État qui s'implique à travers une défiscalisation à hauteur de 75%, donc un nouveau type de partenariat État-mécénat, des grands mécènes évidemment qui ont participé pour certains à hauteur de 200 ou 100 millions, et surtout en France et à l'étranger. Ça montre le rayonnement mondial de la cathédrale et au-delà du patrimoine français.
847 millions d'euros récoltés.
Oui.
Et beaucoup à l'époque ont été un peu choqués qu'on donne autant pour un monument, moins pour les associations. C'est vrai qu'on a entendu ça après l'incendie.
Oui, alors c'est une question qui existe depuis que le christianisme existe, depuis le XIIe siècle. Déjà, Bernard de Clairvaux disait « faut pas de luxe dans les églises ». Suger disait au contraire « ce luxe dans les églises, il est au service de tous, y compris des pauvres ». Bon, moi ce que je pense, c'est que le don appelle le don. Et quand on est dans une société qui a la culture du don, la culture de la générosité, plus on donnera pour le beau, plus on donnera aussi pour le bien. Et donc, on donnera d'autant plus pour des associations d'entraide aux personnes que l'on donne pour des associations qui défendent que la beauté soit universelle et appartienne à tout le monde.
Merci beaucoup Mathieu Lourse, historien de l'architecture spécialisé cathédrale, d'avoir été avec nous. Je rajoute qu'il y a un numéro spécial de Connaissance des Arts, la fabrique de Notre-Dame qui est en kiosque actuellement, numéro spécial au profit du chantier. Je remercie également Marie Parent, restauratrice de peinture murale, d'avoir été avec nous ce midi dans Ma France. Merci beaucoup. Et Jean-Louis Bidet, charpentier, directeur technique du projet Notre-Dame des ateliers Perrault à Saint-Laurent-de-la-Plaine en Anjou. Merci à vous tous. L'émission est à réécouter en replay sur France2.fr. Et tout de suite, il n'est pas en replay, il est bien là. Ah bonjour,
bah oui, je suis là.
Willy Revelli.
Bonjour Marie. Écoutez, j'ai une petite question à vous poser.
Oui, comme d'habitude.
Vous avez un petit enfant à la maison?
J'ai un petit enfant, tout petit.
Quel âge à peu près?
À peine deux ans.
Est-ce qu'il est devant les écrans?
Elle. Ah non, mais bon. On ne s'interdit pas de regarder un grand événement quand elle est là. Quand même.
Faites attention parce que c'est pas bien. C'est pas bien et on va en parler dans un instant. À tout de suite.
À tout de suite.
Cette semaine, sur France Bleu, embarquez sur la première croisière Claude François. Du 6 au 13 octobre, prenez place à bord du Costa Toscana pour un séjour festif d'une semaine en mer Méditerranée. Une expérience unique en compagnie de Claude François Junior et Danny Borg, la capitaine des Claudettes. Écoutez France Bleu et tentez de remporter votre séjour VIP sur la croisière Claude François.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu.
Il est 13h sur France Bleu. Ma France revient bien évidemment demain, mais pour l'instant vous retrouvez Willy Revelli et toute sa tribu sur France Bleu.